Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais traiter de l'oralité. Je vais aussi parler de l'écriture. Parce que qui dit oralité, il y a aussi écriture. Il ne faut pas y échapper. Et je vais essayer de vous argumenter, de vous démontrer que c'est un savoir-faire qui n'est pas très connu, ou peu reconnu, en tant que savoir. Quand on parle d'oralité, on soulève forcément la question de l'écriture, je viens de le dire, et c'est vrai qu'en Occident, le savoir est à l'écriture. On apprend à écrire à l'école, pas à la maison. Donc, si l'écriture est un mode savant, en quelque sorte, il est aussi une forme de domination. On va le voir avec l'apparition de l'écriture, je m'en parle tout à l'heure, avec les premières civilisations mésopotamiennes. Et si on regarde de ce côté-là, à quoi servait-elle dès le début, l'écriture dans ses débuts? En fait, elle est apparue à la fin du 4e millénaire. Et si on regarde, ce n'était pas véritablement de l'écriture comme on l'entend, c'est-à-dire avec des mots, mais plutôt c'était des listes d'ordre administratif, d'ordre d'une économie et une administration politique. Oui. C'est en train de se faire. Donc vous serez sur l'enregistrement. Je vous en prie.
Mais comme je disais, le terminateur, ça va être un peu moins rapide que les essais. Voilà.
Donc je disais, ce sont des listes d'ordre administratif. Alors pas d'ordre administratif dans le sens c'est de l'ordre, même si c'est ordonné. Mais c'est une forme administrative. Et je vous ai parlé d'économie, mais aussi d'administration publique. Dans le système bureaucratique de type mésopotamien, on est quand même au 4e siècle avant Jésus-Christ, hein, 4e, pardon, millénaire avant Jésus-Christ, on a des enregistrements d'informations de type transaction, parce qu'on a des bases de circulation de biens et de personnes. On a donc une minorité de fonctionnaires qui écrivaient ces listes. Et c'était une possibilité de domination dans le sens où les scribes aussi égyptiens, l'écriture, ce sont des fonctionnaires, ils établissent des listes, et ces listes sont administratives. Donc on n'a pas du texte, vous voyez, ce sont des signes. Alors on ne peut pas nier que dans l'histoire de l'humanité, il existe bien sûr des sociétés avec l'écriture, qu'on appelle aussi des sociétés historiques, puisque l'histoire, c'est aussi l'écriture, et des sociétés sans écriture. Heureusement, pour les sociétés sans écriture, on peut être érudit et illettré. C'est très important, parce que sinon, on voudrait dire que ce sont que les sociétés de l'écriture qui ont la forme de l'érudition, la forme savante. Or, ce que je vais essayer d'argumenter aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir des sociétés sans écriture tout en ayant des formes savantes. Donc important, être érudit et illettré. Dans les années 30, par exemple, Milman Paris et Albert Lord comparaient deux traditions épiques qui étaient séparées par 1000 ans, c'est-à-dire les barbes, certes, et la poésie homérique. Ils ont fait, dans ces années 30, des enregistrements sur plusieurs années. Les barbes, certes. Et en fait, ces enregistrements n'affichaient pas, sur plusieurs années, de modifications considérables. C'est-à-dire, le texte, ce qui était dit, n'affichait pas, n'avait pas de modifications considérables. Et même, quand on leur apprenait à lire, ils perdaient leur faculté poétique. Donc il est tout à fait possible d'avoir des facultés poétiques orales, et tout en apprenant à lire, de les perdre. Et là, ces deux chercheurs, Paris et Lord, formulent l'hypothèse que avant la formulation par écrit, il existait des poètes épiques avant et sans doute aussi pendant l'époque homérique. Donc je vais vous parler d'Homère et des Grecs. Chez les Grecs, il y a deux formes de poètes. Il y a l'Aède et le Rhapsode. L'Aède, c'est celui qui crée, le Rhapsode, c'est celui qui récite. Donc on a deux acquisitions d'un savoir qui ont aussi deux statuts différents, comme, j'en parlais aussi tout à l'heure, dans la thanatique kabyle, la philosophie kabyle, encore présente au XXe siècle et étudiée par Mouloud Mameri, qui est un écrivain kabyle. Vous avez peut-être lu La Colline oubliée, c'est un roman très connu de ces intellectuels kabyles qui ont été très nombreux, comme Mouloud Feraoun ou encore Kateb Yassin. Pourtant, on a des pratiques orales qui sont socialisées dans le cas des poètes, dans les sociétés antiques méditerranéennes. On a les conteurs, on a les bardes, on a les chanteurs, et tout ça, ça passe pour des facultés naturelles. La poésie, savoir discourir, savoir parler, savoir, particulièrement sous la Troisième République, avec les restitutions de discours à l'Assemblée, c'était quand même incroyable, entre Clémenceau et Jaurès, ce sont des manières de discourir qui peuvent sembler naturelles. Qui parle de ces facultés naturelles, qui a étudié ces facultés naturelles des sociétés orales, c'est les sociétés occidentales. Ce sont les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales qui ont étudié ces sociétés orales, cette tradition orale, par des disciplines comme les sciences humaines, l'histoire, quelquefois la littérature, qui ont étudié ces sociétés sans écriture. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire de la manière dont ces sociétés ont été étudiées par l'Occident. Je vous donnerai d'ailleurs, je pense que ça sera possible, toute la bibliographie que j'ai utilisée aussi depuis le début de ces communications pour vous dire sur chaque communication quelle bibliographie j'ai utilisée. Donc là je vous donnerai peut-être à la fin aussi. Donc c'est pas le propos. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on peut identifier et rassembler des tendances dans le traitement des sociétés sans écriture, donc dans le traitement occidental. Et on remarque que c'est souvent en termes de dichotomie que les choses sont décrites et abordées avec souvent peu de distance, malgré certaines formes d'objectivité, comme Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, on sait que c'est une forme d'objectivité avec l'absence du sujet, mais il a toujours eu du mal. Lévi-Strauss a considéré, à réintroduire le sujet dans l'objet, puisque lui, il considère que ce sont les structures qui déterminent l'individu, les structures notamment mythiques, puisqu'il a analysé beaucoup les mythes. Et il est d'ailleurs resté très, très vague sur la notion de musique, parce qu'en même temps, je pense que je l'ai dit déjà il y a la première séance, même s'il décrit de manière objective des sociétés particulièrement d'Amérique latine, il n'est pas très clair sur la notion de génie dans la musique chez les musiciens en Occident. Donc, malgré son objectivité, il arrive à penser les autres, mais il n'arrive pas à penser sa propre société. C'est pour ça que ces termes de dichotomie, c'est souvent utilisé entre nous et eux, entre primitif et avancé, entre simple et complexe, entre traditionnel et moderne. Heureusement, certains auteurs, qui ne sont pas forcément connus, comme Lévi-Strauss ou d'autres, ont tenté, et souvent réussi à présenter ce qui me paraît être fondamental, c'est-à-dire une comparaison sans ethnocentrisme, où chaque chose est étudiée pour ce qu'elle est, et non ce qu'on voudrait lui faire dire. Il faut se rendre compte, il faut se mettre à la place du savant aussi. Je sais que c'est pas toujours évident, mais quand on étudie les autres, on se sent souvent autorisé à dire des choses par rapport à notre position et pour penser les autres qui sont à l'opposé, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est eux. C'est pas vraiment les autres, c'est eux. Donc quelque part, c'est avec ces auteurs, on a donc un contrôle de l'approche, une création d'outils nouveaux, des outils qui se contrôlent aussi. Donc les outils qui se contrôlent et qu'on contrôle, on appelle ça la réflexivité. c'est quoi? C'est une manière de regarder, un regard, c'est une imagination au service d'une vision, d'une théorisation qui est disponible. Parce que ce qui est important, enfin, vous avez deux manières, si vous voulez, d'étudier des sociétés. Vous avez la manière inductive et la manière déductive. Bon, il y en a plein d'autres, si vous voulez, plus nuancées. Mais en science, on a ça. Donc la manière inductive, c'est de préparer une problématique avec des hypothèses et vérifier. Et la manière déductive, c'est faire des expériences et ensuite en déduire quelque chose. Donc là, une théorisation disponible, une manière de construire la théorie, c'est à chaque fois qu'on rencontre un nouveau terrain d'étude, on affine la théorie. Donc il faut qu'elle soit suffisamment vaste et disponible pour correspondre à chaque fois à un nouveau terrain qui arrive. Oui, vous comprenez? Donc ces auteurs, on les connaît, et l'important c'est de s'adapter à chaque terrain qu'on rencontre, ou chaque idée aussi. Parce que là, je suis en train de vous parler d'un sujet, bon, ce sujet il est traité par d'autres personnes aussi. L'oralité, c'est quelque chose qui a été beaucoup traité, que ce soit en littérature, en sciences humaines, en histoire et en archéologie aussi. Donc si on arrive à s'ouvrir à chaque expérience, soit ses propres expériences ou celles des autres, ça veut dire qu'on est aussi capable de traiter le document du passé et d'avoir un rapport, pas seulement à une expérience d'observation sur un terrain, mais aussi être capable d'être ce qu'on appelle un lettré, c'est-à-dire un lecteur. Donc lire. Alors attention à la lecture, parce que lire, c'est aussi interpréter. Donc il y a certains auteurs aussi qui se sont permis, sans donner de leçons, mais plutôt en donnant des armes, de se demander comment lire. Qu'est-ce que c'est que lire? Non pas qu'est-ce que c'est que lire, c'est-à-dire bon, des mots qui se chevauchent, qui s'enchaînent, des idées, mais comment lire un auteur, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une science des œuvres, par exemple? Je vous dirais oui. Mais surtout, comprendre, puisque j'ai parlé d'imagination, je parle d'image, comprendre c'est aussi, pour Wittgenstein par exemple, utiliser concrètement. Voilà, c'est la définition qui donne du comprendre. Comprendre, c'est utiliser concrètement. Donc est-ce que nous sommes capables d'utiliser concrètement ce que nous comprenons? C'est une vraie question. Ou est-ce que ça reste un signifiant flottant? C'est-à-dire, bon, j'ai une idée, en général, ce sont des opinions. Alors de manière un peu provocatrice, Bachelard dit que les opinions sont très subtiles, puisqu'elles servent à être éliminées. Donc Bachelard, philosophe des sciences. Cette posture, elle a l'avantage de s'éloigner de la tentation de voir dans les sociétés que tout est codification, tout est réglé. Comme par hasard, les sociétés sans écriture, les sociétés traditionnelles, sont réglées, sont figées. Et nous, par contre, nous sommes dans la modernité, donc dans le mouvement, la notion de dynamique, etc. N'oublions pas la forme de reproduction que nous faisons aussi inconsciemment. Cette notion de reproduction a été étudiée particulièrement par Bourdieu, que ce soit dans le système éducatif, avec un de ses premiers ouvrages qui a fait sensation dans la gauche des années 60, Les Héritiers. Tout est réglé, ordonné, donc on pourrait dire que tout est écrit. Donc ça fait un peu sourire. Parce que dire, c'est quand même assez paradoxal de dire que tout est écrit dans les sociétés. Sont... Bon, voilà, on s'amuse un peu. Enfin, en tout cas, moi, ça m'amuse. Et je voudrais partager avec vous cet amusement. Donc on voit que l'écriture, qui est une manière de libérer, ne fait pas que libérer. Elle peut enfermer aussi l'écriture. Parce que souvent dans les ateliers d'écriture, on dit, venez pratiquer l'écriture, il y a une forme de libération. Bon, certes, mais quelle forme de libération? Est-ce que c'est la libération de soi ou est-ce que c'est la libération des opinions et des préjugés qu'on peut avoir? Alors pourquoi sommes-nous tentés de le voir comme ça? C'est-à-dire ordonner, réguler, tout est écrit, etc. Tout est écrit, ça fait penser bien sûr au Mektoub, au destin, au Fatoum, tout ce qui est la fatalité. Alors, il y a des premiers théoriciens de sociétés exotiques sans écriture qui ont découvert un tout, c'est-à-dire un organisme, qui avait la comparaison au début avec Spencer au XIXe siècle, entre les sociétés, c'est un tout, c'est comme un organisme, c'est un tout. Et ce tout est organisé en parties, différentes parties, où chaque partie est dans le tout et le tout dans chaque partie. Bien, cette réciprocité semble donner c'est ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Donc, le fonctionnalisme a été nécessaire à la sociologie à ses débuts, parce que ça lui a permis de rompre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ce que je redis Bachelard quand il dit une opinion est importante. Enfin, l'intérêt d'une opinion, c'est en fait d'être détruite. C'est parce que ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir des idées pour les détruire. C'est ça. Alors, qui dit détruire, ne veut pas dire forcément les oublier, mais les suspendre, les neutraliser de façon à ce qu'elles ne donnent que ce qui est important, et nous allons le voir aussi dans la société grecque, c'est-à-dire la vérité, la fameuse vérité, en tant que parole. Bon, je fais vite, hein, mais quand on dit ça, on dirait que, bon, tout est dit. Alors, dire qu'il y a des différences entre les sociétés orales et les sociétés écrites, c'est vrai. Mais on serait bien, il serait bien malaisé de croire que les sociétés sans écriture, société veut dire forcément culture extra-européenne. Il suffit d'aller dans nos campagnes pour nous rendre compte que les illettrés, il y en avait il y a si longtemps, et qu'on n'a pas besoin de faire de l'ethnologie esthétique pour découvrir que les sociétés sans écriture, c'est nous aussi dans les campagnes. Et oui. Quand même une notion, déjà, première rupture avec une forme d'ethnocentrisme. Bon, alors après, quand on habite en ville, on trouve que les paysans, c'est eux, et que nous, les gens de la ville, bon, c'est nous. On a toujours, bien évidemment, on est toujours objectiviste quand il s'agit des autres. Par contre, en ce qui nous concerne, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais, quand on établit ces différences sur des conceptions évolutionnistes, par exemple, une vision, c'est quoi une conception évolutionniste, c'est-à-dire une vision unilinéaire du changement. C'est-à-dire, par exemple, la société évolue du stade primitif, simple, au stade avancé, complexe. Ça, c'est chez Comte. Ou alors, on passe par un état théologique pour ensuite être dans un état métaphysique, ça c'est les visions sur les civilisations, enfin bien classées, quoi, mettre des périodes. Alors ça c'est pas des périodes, on pose des états, donc théologique, métaphysique, pour finir au positif. Alors positif n'est pas opposé au négatif. Le positivisme au 19e siècle, c'est croire que la science peut sauver les maux de l'humanité. C'est ça le positivisme au 19e siècle. Hein. Et effectivement, Comte est en plein 19e siècle et croit que la science pourra sauver l'humanité. On a aussi au 19e siècle les mouvements sociaux, les socialistes, les scientifiques avec Marx, etc. Donc c'est une bonne ambiance, hein, on aurait voulu y être, n'est-ce pas? On a aussi chez Parsons, qui est au 20e siècle, c'est un ethnologue américain, qui dit qu'on passe du stade primitif au stade intermédiaire et puis moderne. Bon, tout ça, ce sont des erreurs un petit peu fondamentale, j'ai pas peur du mot, c'est une première erreur. Deuxième erreur, il y a la théorie subjectiviste. Alors la théorie subjectiviste, qui est un peu idéaliste ou phénoménologique, qui voit dans l'action de l'individu une volonté libre et libérée, pleinement consciente. Bon. Troisième erreur, la théorie objectiviste, je parlais tout à l'heure de Lévi-Strauss, qui, dans un premier temps, est un instrument de rupture efficace, c'est-à-dire qu'on... Pourquoi ? Dans un premier temps, vous voyez, je dis dans un premier temps, dans un premier espace, rupture, un instrument de rupture efficace, parce que on considère, bien voilà, le sujet n'est pas libre, bon, d'accord, pourquoi pas, le sujet n'est pas libre, et ces structures mentales sont en fait structurées par l'histoire, et sont en fait structurées par la société. Et ça nous semblerait évident, dans le sens où on pourrait dire que, eh bien, si, je sais pas moi, un Inuit du nord du Canada né ici, il y a de fortes chances qu'il devienne un Français plutôt qu'un Inuit. Et pourtant, c'est un Inuit. Il aura les yeux bridés, il aura tout ça. Hein. Mais, voilà. Donc, on peut considérer, effectivement, oui, peut-être que ce sont les structures qui nous font agir. Certes. Mais, ça, c'est une rupture efficace avec l'expérience indigène. L'expérience indigène, c'est-à-dire se sortir de l'expérience de l'autre, de l'observation qu'on fait dans la société indigène. Comme on fait une observation, il ne faut pas qu'on soit modelé par cette observation, qu'on dépende de cette observation, et pour avoir un point de vue objectif, on va pratiquer donc la distance, cette objectivité, qui va nous faire en fait enlever le sujet, donc soi-même, en quelque sorte. Alors, il ne faut pas oublier aussi peut-être une autre erreur, c'est le relativisme, une sorte d'humanisme naïf qui pense que tout se vaut et qui refuse de voir, par crainte de ce qu'il trouverait peut-être, les différentes hiérarchies et les dominations qui se construisent dans les sociétés. Bon, quoi qu'il en soit, en utilisant le partage entre nous et eux, donc c'est nous, c'est eux, on s'expose à l'ethnocentrisme sans autre forme de procès. De même, quand on classe d'autres sociétés, qu'on découvre des sociétés, qu'on a envie de faire des classements, c'est-à-dire j'ai découvert ça, par exemple, un classement, ça pourrait être, bon, qu'est-ce qui se passe dans tel rituel? On va classer les différentes formes de danse dans ce rituel, ensuite dans un autre rituel, les autres formes de danse, les positions de corps, etc. On va faire des tableaux, on va faire des listes. Bon, en se servant de tableaux pour analyser les systèmes conceptuels des sociétés orales, les ethnologues ont pratiqué quelque part une méthode qui est issue d'un produit de la culture écrite. La formule, le tableau, etc., c'est un produit de la culture écrite. Alors que les sociétés sans écriture n'ont pas du tout les mêmes systèmes de pensée. Donc, ça restreint le champ d'investigation et les explications possibles sont limitées. Donc, alors, comment faire? C'est la question. Et quelque part, on souffre tous, enfin, si c'est une souffrance, bien sûr, pour moi, c'en est une, mais on souffre tous de binarisme ethnocentrique, c'est-à-dire qui relève un peu de nos... qui révèle nos catégories de perception, nos structures mentales. Car quand on doit toucher au développement de la pensée humaine, c'est-à-dire société sans écriture, société avec écriture, c'est quelque chose qui concerne la pensée humaine, ce n'est pas rien. Et c'est vrai qu'il faut se sentir en capacité d'aborder et de traiter les sujets en, je vous l'ai dit aussi une autre fois, transformant l'étranger en familier et le familier en étranger. Donc ça, c'est une forme de rupture. C'est-à-dire, ce qui est étranger, je vais le transformer en familier, je vais me familiariser avec l'étranger, et ce qui est familier, c'est-à-dire moi-même, je vais essayer de rompre avec ce familier pour devenir à mon tour étranger et faire donc sans cesse des allers-retours, si c'est possible. En tout cas, j'ai trouvé le biais. Donc, un billet, une adhésion jusqu'à la fin, en fait. Comment on appelle ça? On appelle ça comment, une adhésion de fin? Un abonnement jusqu'à la fin, c'est ça qui est bien, c'est grand. Ça fait sourire certains. Alors, ça sert à quoi aussi? Ça sert, pour reformuler autrement, mais je pense que vous aurez compris, c'est regarder l'autre comme un familier et pas comme un autre moi, vous voyez? C'est pas la même chose. Donc, quelque part, il y a une forme aussi, alors peut-être sans être de l'humanisme naïf, une forme de fraternité. Voilà. Un exercice spirituel sur la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité? Qu'est-ce que ce que les Grecs appellent la philia? C'est-à-dire les rapports affectifs qui n'ont rien à voir, ou alors en grec aussi homoï, c'est-à-dire le semblable. C'est-à-dire pas les liens du sang, mais une forme d'égalité. Parce que les liens du sang sont trop forts. C'est pour ça qu'on a tous des problèmes avec la famille, n'est-ce pas? Donc il existe un risque qui n'est pas négligeable de dévaluer quand on essaye de comparer. Et c'est une forme de méconnaissance et il y a un problème d'approche. L'approche, quelque part, on revient au regard. Alors je pose la question suivante. Au milieu de ces règles qui semblent expliquer les attitudes et les comportements d'individus, pris dans des structures et des modèles, et particulièrement dans le cas de sociétés sans écriture ou primitives, et aussi contre la notion d'activité créatrice naturelle d'un sujet transcendantal, comment réintroduire la pratique de l'individu dans les structures, c'est-à-dire la société et le groupe, et c'est ce qui nous concerne depuis toutes ces... quelque part, communication, la place de sa capacité d'invention et de création. Pour les sociétés sans écriture, au début, était la parole, le logos pour les Grecs, et non le verbe, le mot des religions monothéistes. Alors ça ne veut pas dire que je critique les religions monothéistes, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si dans les sociétés antiques, on a la place de la parole, c'est bien autre chose que le verbe. Tout le monde est doué de parole. Et en plus, les Grecs valorisaient le fait que si tu es aveugle et en plus tu as la parole, c'est magnifique. Bon, ça veut dire que le sens de la vue, quand il est perdu, quand on arrive quand même à parler et à voir sans voir, c'est ce que je veux dire, c'est valorisé. C'est pour ça qu'Homère, certains statues d'Homère étaient représentés chez les Romains comme étant aveugles. C'est-à-dire c'était un poète, un aède, donc un créateur, qui était aveugle. Et ça, c'est important. C'est important parce que le logos, cette parole, et non le verbe, le mot, ça veut dire que la parole, elle existe dans tous les actes de la communication. Quand je dis actes de communication, c'est pas la communication, la com, d'accord ? C'est la communication, quoi. Communiquer. Donc c'est un processus de connaissance, la parole. C'est un mode de pensée. Et on appelle ça aussi un processus cognitif, ça signifie apprentissage d'opération à la fois technique et affective. C'est qu'on apprend de manière affective, tout le monde apprend de manière affective, mais cet affect, on pourrait dire qu'il peut poser problème. Parce que justement, si on veut être objectif, ce fameux être objectif, il faut se séparer de l'affect. Non, l'affect peut être savant aussi, à partir du moment où il est contrôlé, à partir du moment où justement, la tête, c'est le cœur, et inversement. Non, non, ce n'est pas schizophrénie. Donc, l'oralité, c'est la parole. Bien entendu, il y a la parole de tous les jours, dans les discussions quotidiennes, les échanges, la radio, la télévision, etc., etc. Mais revenons aux Grecs. Pour les Grecs, avant Hésiode et Homère, donc 8e siècle avant Jésus-Christ, avant l'invention de la cité, mention de la cité, 5e siècle avant Jésus-Christ, avant l'écriture et l'utilisation de l'alphabet par les Grecs, la parole, elle renvoie à la notion de vérité. Elle est donc synonyme de vérité. Et pourquoi ? Parce qu'elle construit la mémoire. Et à quoi sert la construction de la mémoire ? Eh bien, elle a pour but d'écarter l'oubli. Si on écarte l'oubli, c'est très important d'avoir accès à la parole et donc à la mémoire. Et je ne parle pas de mémorisation. C'est encore autre chose. Pour Marcel Bétienne, qui est un spécialiste des sociétés grecques, c'est pas le seul, ils sont tous une poignée, c'est des copains. Enfin, ils sont morts, mais c'est des copains. Une observation simple. En Grèce archaïque, c'est avant Homère et Hésiode, c'est avant le 8e siècle. Il y a trois personnages. Le devin, la haine et le roi de justice. La haine, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui crée. Hein, c'est un créateur. Ils ont en commun, tous les trois, de dispenser le droit de vérité. Et le poète, le voyant, le devin et le roi partagent un même type de parole. C'est la parole, c'est ce que dit Détienne, magico-religieuse. Mais en étudiant d'autres sociétés, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait possibilité d'avoir des pratiques rituelles de parole et pas des discours mythologiques. Ça, c'est important. Dans les sociétés sans écriture, on peut avoir des pratiques rituelles de parole, ok, la poésie par exemple, mais en même temps, elles ne sont pas forcément mythiques, donc elles ne sont pas forcément religieuses. Là, je vous parle avant la cité, donc avant l'égalité, enfin l'égalité, égalité, j'allais dire sur le papier, tiens donc, comme d'écriture. Bon, pas sur le papier, mais d'une égalité, en tout cas d'un désir d'égalité, c'est ce que nous appelons la démocratie. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce qu'on appelle en grec les aristocrates, par exemple, ça, en grec, ça vient d'aristoi, ça veut dire les meilleurs. Donc les meilleurs d'entre nous. Alors il y a nous et eux, encore. Mais c'est les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui ont accès à un pouvoir, un pouvoir sur les possessions de terre, un pouvoir économique, etc. Bon, l'aristocratie, ça veut dire les meilleurs. Ils ont l'air d'un seul coup beaucoup plus sympas, en sachant cela, non? Donc la mémoire au début, dans la Grèce archaïque, est une puissance religieuse. On a donc le poète et le devin qui ont accès à quoi? À quoi elle sert cette parole? Je vous ai parlé tout à l'heure, de l'aveugle, de celui qui ne voit pas. Eh bien, quand on ne voit pas ou quand on est aveugle, mais qu'en même temps on voit, ben, il y a de fortes chances qu'on s'adresse, qu'on a accès à l'au-delà. C'est-à-dire ce qui est au-delà de la vision, donc à l'invisible et au caché. Et de suite, ça fait penser à quoi? Ça fait penser aux disciplines qui sont développées, aux matières qui sont développées depuis le 19e siècle et le 20e siècle, c'est-à-dire la physique, c'est-à-dire trouver dans la nature des lois, c'est du caché. C'est-à-dire les choses marchent, mais elles n'ont pas de formule, a priori. C'est aussi pour la sociologie de dévoiler ce qui est caché, c'est aussi pour la psychanalyse de développer, etc., etc. Donc vous voyez, on a quand même une culture grecque. Bon. Donc il faut les aider là, en ce moment. Hein. Les pauvres. Donc ils ont accès, je répète, à l'invisible, au caché. Donc ça veut dire que, quelque part, la poésie est aussi une manière d'accéder au caché. Bon, quelque part, il faut faire un peu de la poésie. Enfin, vous avez lu l'Iliade et l'Odyssée. Bon, si vous avez l'occasion, c'est très chouette. Et d'ailleurs, quand c'est accompagné par des gens qui l'ont lu et qui le commentent super bien, c'est encore mieux. Je pense par exemple à Vidal Naquet. Vidal Naquet, c'est comme des tiennes, un spécialiste des sociétés grecques. Ils sont très chouettes, ces gars. C'est des copains. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le poète et le devin. Mais ils dénoncent ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Ah, super. Ça, c'est important. Et c'est un savoir inspiré, quelque part. Alors, juste pour une petite parenthèse, c'est que Laël, le créateur, il a un rapport avec les muses, j'en parlais tout à l'heure, mais un rapport incontrôlable, incontrôlé, en fait. C'est-à-dire, si on veut avoir accès, c'est intéressant d'un point de vue, ben, c'est pas pour rien que Freud a utilisé tous ces rapports entre les individus dans la mythologie, hein, Oedipe, Jocaste, c'est pas pour rien, il y a tout dedans. Hein. Quelque part, tous ces rapports de Dieu, en fait, c'est pour nourrir, pour rassurer sur l'existence humaine. Et donc, ce savoir inspiré, voilà, c'est le poète qui l'a, et il y a un côté incontrôlable. C'est-à-dire pour rentrer, c'est pas que rentrer en France peut y avoir accès à l'au-delà. Alors ça n'a rien à voir avec la pitié, vous savez, cette dame, pourquoi je dis, je devrais dire cette femme, mais bon, je dis cette dame qui était au temple de Delphes et qui rentrait avec des vapeurs, je ne sais pas d'ailleurs, qui sortait du sol, donc qui le mettait en France, et elle rentrait dans un état second, et elle avait des visions, c'est les fameux oracles. Bon, là, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais on est quand même dans l'incontrôlable. C'est quand même particulier de formuler le rapport avec l'invisible et le caché en termes d'incontrôlable. Vous voyez, c'est particulier, il y a un côté peut-être interdit. Interdit, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut être incontrôlable. Donc il utilise la parole chantée, le poète, et chantée ou la parole rythmée, qu'on appelle en grec moussa, qui est la lumière, louange, et qui célèbre les actions des hommes, donc les exploits, les épopées. Cette parole, elle est créatrice d'une force vitale et de la plénitude de l'être aussi. Donc là aussi, encore quelque chose qui pourrait sembler paradoxal, c'est-à-dire pour avoir la plénitude de l'être, il faut avoir un rapport incontrôlé avec soi-même. Tiens donc. Et en quelque sorte, ça c'est Vidal Naquet qui le dit, Pratiquer la parole, c'est exercer une forme de monologue intérieur comme une figure de style. Parce que le poète qui déclame, il va chercher, certes, on pourrait dire en lui-même, mais il y a un monologue intérieur. Et ça, c'est la première fois qu'on est confronté à ça. Un monologue intérieur et une parole extérieure. Donc sans cesse un aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. Vidal Naquet dit « Le monologue intérieur, jusque dans sa répétition, est une invention d'Homère, qui a été continuée en quelque sorte par James Joyce, du Work in Progress, et qui en a fait le cœur de son roman Ulysse. » Donc, le monologue intérieur, jusque dans sa répétition, c'est une invention fondamentale. Et le Work in Progress, quelque part, Vidal Naquet nous donne, par l'intermédiaire d'Homère, une autre explication du Work in Progress de James Joyce. Il nous dit, eh bien voilà, ce monologue intérieur, c'est cette écriture qui consiste en fait à rentrer dans un état pour sortir de soi-même, de James Joyce, ou de la pratique du Work in Progress, c'est-à-dire le travail en train de se faire. C'est ça, mettre dans sa propre écriture. Mettre dans sa propre écriture un monologue intérieur. Alors les muses, c'est qui? Les muses, elles sont les filles de la mémoire. La mémoire avec un grand thème, parce que j'ai dit que la mémoire est une puissance religieuse tout à l'heure. Donc, d'après Hésiode, Hésiode c'est le 8e siècle, c'est un poète créateur qui composait, donc un Aed, c'est ce qu'on appelle les Aed. Donc les muses, elles savent à la fois dire des vérités et des choses trompeuses semblables à des réalités. Donc des vérités et à la fois des choses trompeuses semblables à la réalité. Quelque part, on a la définition de l'art grec. C'est-à-dire, l'artiste grec, le sculpteur, il fait comme la réalité, mais en fait, c'est une copie. Donc, il fait comme si c'était la réalité, mais ce sont des choses trompeuses. Donc l'artiste a accès à des choses trompeuses. Il fabrique des choses trompeuses. Et on retrouve aussi quelque part le fondement de la dialectique, c'est-à-dire la dialectique, dire des vérités, et des choses trompeuses semblables à la réalité, c'est les sophistes ou la rhétorique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les chants et les récits mythiques, les incantations, les allocutions cérémonielles, elles ne sont pas établies une fois pour toutes, donc elles ne sont pas figées définitivement dans les sociétés sans écriture. Il existe donc des improvisations, mais qui sont ponctuelles et circonstancielles. Le poète, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des associations de termes qui sont assez étonnantes. Il a des images qui se chevauchent, mais qui ne s'annulent pas. C'est Homère. En ce sens, c'est vrai que Homère est unique. Mais en même temps, il y a, comme dirait Vidal Naquet, plusieurs Homères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Homère qui... Enfin, il n'y a que Homère qui nous a laissé l'Iliade et l'Odyssée, mais avant Homère, il y avait des Aèdes. Et pendant l'époque d'Homère, il y avait aussi des Aèdes. Donc, il y a plusieurs Homères. En gros, les épopées, les poèmes, etc., c'est une réflexion sur la condition humaine par rapport au monde divin. Et c'est vrai que dans, c'est ce que dit encore Vidal Naquet, chez Homère, si on doit avoir un rapport entre notre propre vie et un rapport des conditions d'existence de notre propre vie et le rapport au divin, le monde des dieux, eh bien Homère, lui, va plutôt choisir de faire des chutes. C'est-à-dire que au lieu de raconter des héros qui montent, il va plutôt raconter des héros qui descendent. C'est-à-dire des héros déchus. Il arrive toujours plein d'histoires à Achille, il arrive toujours plein d'histoires à Ulysse. Donc Ulysse, c'est à la fois d'ailleurs un être misérable et un être incroyable, donc on a plus des chutes que des ascensions sociales. Est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans une notion de critique? Alors, parlons maintenant de l'acte de composition du texte oral, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au principe de cette composition? Et bien, tout simplement, il y a des usages qu'on appelle mnémotechniques. C'est-à-dire comme les formules, c'est interne au discours. Sorte de préécriture dans un corps qui est géomètre, placé dans le temps et l'espace, et aussi pour réciter des formules magiques. C'est en récitant les formules, on arrive à retenir. Ça peut durer des heures. C'est-à-dire réciter un texte, les rhapsodes, par exemple, réciter des textes pendant des heures, et on exigeait d'eux qu'ils reprennent au moment où Benoît son rhapsode, il y a 6 mois, l'avait laissé. Donc il y a un rapport, si vous voulez, de transmission sur la récitation. Une forme d'exigence aussi. Et si on met en relation les différents types de savoir, c'est-à-dire les différents modes de thésaurisation du savoir, c'est-à-dire de l'accumulation du savoir, et aussi de la transmission de ce savoir qui est accumulé, on pourrait se donner les moyens de comprendre le mode de fabrication des textes et le mode de formation de ceux qui les produisent et les reproduisent. Tout ça semble très théorique, mais dans l'analyse d'une musique qui n'est pas la nôtre, ça peut très bien servir, particulièrement dans l'analyse des musiques de culture sans écriture, de culture africaine, que ce soit de culture africaine, antillaise, culture du Maghreb, culture méditerranéenne aussi. Et cette capacité orale, c'est quoi? Cette capacité de produire, par exemple, de la musique ou de produire du discours. Eh bien, en fait, c'est un bien. C'est un bien symbolique qui mérite le même traitement qu'un bien matériel, c'est-à-dire ou économique. C'est-à-dire qu'il y a des conditions sociales qui produisent une forme d'oralité, il y a une reproduction, il y a une circulation, il y a une consommation du savoir, et donc un marché des biens symboliques, etc. Donc l'immatériel peut se comprendre avec la même méthode que le matériel. Il suffirait pour cela qu'on arrête de faire des dichotomies encore, par exemple, entre la sociologie et l'économie. Donc il y a un jeu qui est polyphonique, c'est-à-dire être capable de penser différentes choses au même moment. Ça fait possible. Par exemple, jouer de la musique et écouter les autres en train de jouer, ou réciter des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Par exemple, faire la vaisselle et réciter Shakespeare. Donc j'exagère. Ça serait plutôt s'amuser comme exercice à jouer une musique, à jouer une mélodie, et en même temps parler, c'est-à-dire de manière arbitrique, parler en même temps qu'on joue cette mélodie. On connaît ça chez les griots, par exemple, si vous connaissez la culture d'Afrique de l'Ouest, chez les griots d'Afrique de l'Ouest, alors les griots qui sont quelque part les daèdes, enfin ils créent, ou les rhapsodes, certains ont créé, d'autres c'est plutôt des rhapsodes, des récitants, qui chantent aussi les louanges. Donc on trouve ça dans différentes sociétés orales. C'est pour ça que je parle de jeu polyphonique mental entre différentes lignes sémantiques. Il y a différents sens et on va faire un jeu polyphonique mental. Qu'est-ce qui peut aider à faire à gérer des articulations comme ça, polyphoniques? Eh bien, c'est le rythme. Le rythme scandé, le rythme de la parole, mais en même temps une répétition mélodique, comme je vous disais, et placer sur cette répétition mélodique des histoires. Si l'articulation est rythmique, ça peut vouloir dire aussi qu'elle est souvent accompagnée par de la musique. Et l'art du chant, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des vers qui sont métriques, mais il n'y a aucune rigidité là-dessus, on peut faire un ajustement qui est progressif. Donc en gros, je viens de vous dire théoriquement ce que je vous ai dit de manière pratiquement juste avant. Il est tout à fait possible, donc, de, si on est capable d'énoncer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on joue, ça veut dire qu'on est capable de toujours continuer à jouer tout en écoutant ce qui se passe. Donc ça, c'est une capacité des cultures orales. Ce n'est pas une capacité particulièrement de la partition, qui est pourtant une forme écrite. La partition, on reste attaché dessus. On est plus un récitatif, c'est-à-dire un rhapsode. Donc dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas interpréter, bien sûr qu'on peut interpréter, ça n'empêche pas. Mais qui l'a emporté, c'est l'écriture comme savoir, c'est-à-dire les musiques écrites. Les musiques écrites sont occidentales. Je le rappelle, elles sont occidentales, sauf peut-être dans l'Atlantide, mais l'Atlantide a disparu il y a très longtemps. Donc, je ne sais plus si elle existe. Vidal Naquet aussi parle de l'Atlantide, c'est assez marrant, j'ai fait un point sur l'Atlantide. Vidal Naquet, c'est un copain. Bon, je ne vais pas le redire à chaque fois. Non, parce que certains croient que je ne jure que par mon Dieu, il y en a plein d'autres. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein d'autres. Donc il faut un peu les, ouais, il faut les lire. Donc, je vous ai parlé de jeu polytonique, je vous ai parlé de l'art du chant. Et c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important dans la musique d'avoir. Bon, certains, il y a une expression qui dit avoir l'œil sur tout. Bon, ben on peut avoir une oreille sur tout aussi, une oreille partout, pour entendre. Et c'est vrai que ça sert beaucoup à quoi faire. Quand la musique, comme elle est volatile, quand on joue de la musique, elle est volatile. Elle n'existe que dans le moment où on la joue. Quand elle n'est plus jouée, elle n'existe plus. On sort pour les fous furieux de partitions qui arrivent en train. Alors personne ne joue. Mais c'est formidable, bien évidemment. Je ne suis pas capable de le faire, mais je comprends tout à fait comment ça marche. Donc, à part pour eux, être capable justement de ce jeu polyphonique et mental, c'est être capable d'entendre différentes choses tout en jouant. Ça permet de se réajuster. De réajuster comme la musique continue, la prochaine mesure qui va venir. Vous saisissez, la musique continue, elle continue. Ah là, c'est bon, je ne suis pas dedans, j'entends un truc. Ah si t'entends un truc, pof, tu vas te replacer dans la mesure qui suit. Vous voyez ? Donc, entendre ou jouer polyphoniquement avec le mental, c'est être capable de prendre une forme de distance tout en jouant. Donc, ce n'est plus de l'observation participante, mais c'est de l'objectivation participante. Une forme de réflexivité qui se met en acte dans le sujet, dans ce qui est en train de se passer dans le mouvement. Tout ça, je ne l'invente pas, je l'ai observé aussi dans les sociétés. Ça voudrait dire que je suis parti dans les sociétés antiques ou les sociétés orales, mais disons, en pratiquant ces musiques de tradition orale, avec des personnages hauts en couleur, j'ai eu l'occasion de remarquer ça. Et en même temps, de le comprendre parce que je le pratiquais moi-même, mais de manière confuse. Donc ça m'a permis de. Confus, ben après être confus, on vérifie, donc on ne l'est plus. Bon. Alors pour les épopées, revenons maintenant aux épopées et aux balades, ou certains récits et chansons, il y a des auteurs qui ont par exemple parlé de formules, en parlant des épopées et des balades, pour qualifier cette expression orale. Donc on pourrait dire que la formule, c'est une manière aussi fixée, hein, la formule. Formule magique, formule mathématique, formule magique, formule mathématique, c'est les deux, c'est, pourtant c'est différent la magie et la mathématique. Bon, remarquez, c'est peut-être magique aussi de mettre des nombres sur la nature. C'est pour ça que Pythagore, il était considéré comme un magicien. Parce qu'il mettait, il disait que tout est nombre dans la nature. Bon, c'est assez sympa. Donc certains auteurs ont parlé de formule. Manière fixée, c'est ce que je disais. Par convention, donc il y a des conventions dans la manière de fixer. Des conventions dans la manière d'énoncer aussi. Des relations, par exemple, entre des thèmes. Des idées, sous forme abstraite. Voilà, un jeu polyphonique aussi. C'est être capable, c'est ça aussi, la aide, s'il est capable de créer et de réciter en même temps, ça veut dire qu'il est capable aussi de composer et de varier dans le mouvement qui est en train de se faire, alors que, selon les rhapsodes, c'est plutôt un système public assez précis, assez arrêté, il n'aurait pas le droit. Mais là, la aide peut se permettre de composer. En même temps, de composer dans le sens varié. Donc quelque part, on revient à la notion de mimesis, c'est-à-dire la manière de mimer. Mimer, hein, je rappelle Aristote, l'homme est le plus mimeur des animaux, et c'est en mimitant qu'il acquiert ses premières connaissances. Donc il y a une capacité de mime qui est très importante, qu'on ne fait pas, déjà l'enfant, c'est pas lui qui a dit ça. Enfin, c'est pas Aristote enfant qui a dit ça du mime. C'est Aristote grand. Hein, ça semble peut-être idiot de formuler comme ça, mais c'est-à-dire que c'est quand on devient adulte que justement, en réfléchissant sur la manière de mimer ou la manière d'imiter, on est normalement construit pour continuer à être dans cette situation d'imitation pour pouvoir apprendre. Mais on est peut-être tellement fier de soi que peut-être qu'on n'a pas envie d'imiter les autres. Hein. Ben, regardez les humoristes, ils ne font que ça par exemple. On dit que ce sont des grands enfants parce qu'ils imitent les autres. Regardez par exemple des gens qui imitent des démarches, vous avez déjà vu ça je pense. Des personnages incroyables qui prennent n'importe qui dans la, dans la rue et qui sont derrière et qui imitent ces démarches, et on rigole bien. Mais si vous êtes capable de le faire, ben oui, a priori, oui. Bon, pas avec une caméra, vous n'êtes pas obligé. Remarquez, ça désenchanterait, enfin, ça vous permettrait peut-être, si vous le faisiez avec une caméra, d'être un peu moins ridicule. Parce qu'au moins, on passerait, tout ça, on a fait ça pour la caméra, mais bon, si on ne fait pas ça. Bon, ben amusez-vous à le faire. Hein. Faites des expériences aussi. Bon, alors, toutes ces énonciations de relations, d'idées abstraites, de jeux polyphoniques, c'est-à-dire il y a le jeu, mais les relations abstraites aussi polyphoniques, c'est la création, pas seulement devant le public, mais c'est aussi être en capacité de créer des mélodies, d'inventer dans l'instant des mélodies pour créer. Ça ne veut pas dire, quand on est musicien, comment le musicien compose, par exemple. Il faut bien qu'à un moment, il se retrouve tout seul, donc, pour composer. Donc il y a un jeu polyphonique aussi qui est des formes abstraites, c'est-à-dire des mélodies, les sons, enfin d'abord les sons, et ensuite les mélodies. Donc être en capacité peut-être d'imiter des instruments, être en capacité aussi de gérer le rythme, être en capacité de ne pas être seulement dans un tempo, et d'être dans un espace. Parce qu'un jeu polyphonique est un jeu d'espace, ce n'est pas seulement un jeu de temps. Quand on dit que, voilà, le problème, on dit que dans nos sociétés c'est le temps, je dirais plutôt que la solution c'est l'espace. Mais bon, alors l'espace, ça ne veut pas dire le cosmos forcément. Hein, l'espace, c'est-à-dire un espace de pensée, de disponibilité, comme je disais tout à l'heure, de théorisation. Bref, chaque fois qu'on théorise, on a une nouvelle expérience et on la confronte à cette forme de théorisation pour savoir si elle est disponible, etc., etc. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec le langage parlé ordinaire. Si on a des compositions métriques avec un tempo, par exemple l'ordre des poèmes homériques, ou la tamusnie berbère, alors tamusnie berbère, ça signifie philosophie, mais aussi poésie. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Mouloud Mabéry, vous pouvez aller voir de ce côté-là, ou encore chez Jacques Goudy, avec par exemple le bagré, qui est un rituel, chez l'Odaga, du Ghana, et que j'écris très bien aussi, je vous donnerai ces références de Jacques Goudy, qui travaille beaucoup sur les sociétés sans écriture. Alors, ces formes, c'est-à-dire ces compositions métriques, avec un tempo, etc., Goudy les appelle des formes orales standardisées, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui comprend des énoncés, qui sont plus vastes, donc un processus, des énoncés plus vastes, et qui s'étend aussi aux formes artistiques. Donc les formes artistiques, c'est la possibilité de création dans la variation. Je voulais dire, rien à voir avec un langage formalisé, qui est peut-être trop restreint, formalisé, formule, hein, okay, c'est la même chose, mais forme aussi, bien évidemment, trop restreint, et en même temps, il peut être d'une extrême intensité. Il peut être plein d'ambiguïté, de résonance, de métaphore, c'est-à-dire poétique. Parce que la poésie, c'est l'utilisation des métaphores, des associations d'idées, des associations de mots, des résonances et de l'ambiguïté. Encore une fois, tout en étant accompagné par Vidal-Naquet, si vous lisez Homère, si vous lisez l'Iliade ou l'Odyssée, accompagné par des gens qui la connaissent, vous vous rendez compte effectivement de ce travail d'ambiguïté avec des termes qui n'ont rien à faire ensemble, a priori. Donc ça nous aide à mieux comprendre. Comment est-ce qu'on arrive à produire ou à réciter des épopées orales énormes, très très longues? Est-ce que c'est de la mémorisation ou est-ce que c'est de la répétition? Bon, bien entendu, c'est un peu des deux. Alors il y a des thèmes, il y a des expressions, il y a des motifs qui reviennent au cours d'un récit. Mais ce n'est pas que simplement une manière de réciter, c'est aussi une manière de composer. Si je compose, c'est comme si je faisais une forme de récit. Donc il y a un rapport avec la composition qui est disponible, et ça veut dire que j'ai des expressions, des mémorisations, des retours, des allers-retours. Là, on parle bien sûr, non pas de musique, mais du discours. Ou en tout cas de la parole et de la connaissance. La récitation, bien sûr qu'elle fait partie d'une forme de réalité et d'un processus de création continue. Mais en même temps, réciter ne veut pas dire que ça empêche le réagencement. Donc, réagencer, c'est déplacer les éléments, mais pas dans un sens mécanique, mais plus dans un sens d'une activité d'imagination, qui laisse place à une liberté et à une autonomie. C'est vrai que certaines formes de création sont plus génératrices que d'autres, c'est-à-dire qu'elles génèrent plus la création que d'autres. Créer, créer, c'est imaginer. Enfin, l'imagination, tout le monde en est pourvu, a priori. Oui, non? Encore les enfants qui ne font qu'imiter ses pauvres enfants, on les mobilise souvent. Hein. Les enfants, ils ont plus d'imagination que nous, c'est pas normal. Je vois pas en quoi l'enfant a plus d'imagination que nous en jouant à la PlayStation. Mais ça n'empêche pas qu'il peut jouer à la PlayStation. Pourquoi je parle des enfants encore? Bon, certes, parce que j'ai dit qu'il y a une autonomie de création, il y a une imagination, mais qu'est-ce qui renvoie à tout ça? C'est le jeu. Le jeu, le côté ludique, tout le temps. D'où l'intérêt, peut-être, comme disait Flaubert, de voir la société comme une fiction et le réalisme comme une forme de réalité. Donc la société est une fiction, hein? Il faut vivre toutes les vies, je vais vivre toutes les vies. Comment on vit toutes les vies? Eh bien, en se mettant à la place d'eux, c'est-à-dire en étant l'autre aussi, mais par l'imagination. Quel exercice! Comme je le disais l'autre jour aussi, arriver à se mettre à la place d'une femme, comme dans Madame Bovary, alors qu'il n'est pas une femme, c'est quand même formidable. Non? Donc c'est le jeu. Le jeu, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Il a une fonction incorporante. Donc jouer, imaginer, deviner. Galilée en parle. Même Galilée, il dit que, la fantaisie, l'imagination, c'est important. Et si on veut atteindre un endroit, ben, si on n'arrive pas à atteindre cet endroit sur un chemin, 1000 autres voies peuvent être possibles. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous propose dans notre société les choix, le fait d'avoir des choix. De faire avoir tous les choix, d'avoir par exemple 10 produits de tomates, j'ai des tomates, oh mais j'ai le choix, etc. Non, c'est pas ce choix-là, c'est le choix ludique. Justement, c'est être capable de s'amuser aussi, et de s'amuser sérieusement, c'est-à-dire de prendre au sérieux le fait de s'amuser. Oui? Comme je peux paraître des fois, ou comme je peux être quelquefois. Donc c'est vrai que le jeu, il a une fonction, on la connaît, c'est d'apprendre les règles sociales, et particulièrement dans les sociétés sans écriture, le jeu a une fonction sociale, pour apprendre les règles. Alors, on apprend donc à créer, on peut apprendre à créer. Un exemple, dans les royaumes d'Irlande, les collèges de druides, poètes et crieurs de lois, passer par exemple 20 années à mémoriser le droit irlandais et la littérature gaélique. 20 ans. Créer dans ces conditions sociales structurantes extrêmes, mais forcément, quand on crée comme ça, il y a une forme d'incorporation qui est terrifiante. Mais en même temps, on se met au service d'un objet social. Avec une formation comme ça, on a une tâche, on a un honneur qui oriente l'action. Donc l'idée, alors peut-être que certains pensent que les hommes ont trop d'honneur, mais qu'est-ce que l'honneur en fin de compte? Est-ce que c'est une fierté individuelle ou est-ce que c'est un apprentissage social? Bien, réfléchissons justement avec toujours cette fantaisie que nous pouvons utiliser. L'honneur est en fait une forme qui n'a rien à voir avec le machisme, mais qui est une forme de savoir quelles actions sociales on veut mettre. Et l'honneur n'est pas que l'apanage dans une société égalitaire comme la nôtre, ou paritaire. L'honneur n'est pas que l'apanage des hommes, il peut être aussi l'apanage des femmes. Et on n'est pas obligé de s'appeler Simone Veil ou Yourcenar, ou Duras, ou encore Beauvoir. Les femmes ne sont pas obligées de faire comme les hommes. Et souvent, politiquement, elles ne font que ça. À croire que le sexe, enfin que la politique n'a pas de sexe, que le pouvoir n'a pas de sexe. C'est-à-dire qu'on prenne un homme ou une femme, ils sont pareils. L'homme du pouvoir. C'est quand même incroyable. On penserait qu'il y aurait plus de féminité, etc. Alors, il peut exister des savants ou des intellectuels dans une société sans écriture. Nous sommes racistes. Alors, même ça, il dit, c'est un ethnologue, un anthropologue, une société orale n'est pas dépourvue d'esprit critique, mais elle est dépourvue des moyens de se constituer une tradition critique. Donc l'important dans l'esprit critique, enfin pour développer un esprit critique personnel, il faut aller chercher dans l'histoire des traditions critiques, parce qu'on ne pourra pas l'inventer soi-même. Donc ça c'est très important aussi, se rattacher à la mémoire, encore une fois, la mémoire contre l'oubli, et se créer une forme de relation affective avec une tradition. Ça, c'est important, cette phrase. Société orale n'est pas dépourvue d'esprit critique, mais dépourvue des moyens de se constituer une tradition critique. Est-ce que vous avez des questions ?